Vous êtes bien dans l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier, où je reçois Terre Noire lors de leur passage au Rockstore. Depuis leur premier single en 2018, les deux frères Théo et Raphaël s'éclatent sur scène avec leurs déhanchés enflammés. Ils ont accepté de se livrer sur leur collaboration, leur parcours et bien évidemment sur Saint-Étienne. Je vous laisse écouter ça.
Salut Théo, salut Raphaël et bienvenue sur cette part de là. Je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. Enfin, recevoir des chanteurs, ça me fait super plaisir. La première question, c'est, que je pose en général, c'est d'où ça part en fait. C'est quoi, quand est-ce que la musique est arrivée dans votre vie et que vous vous êtes dit, j'ai envie de tester?
Ça a été un instrument. On s'est fait offrir un petit piano électrique quand on était gamin, vers 8 ans je pense. Donc il y a un instrument qui est tombé dans la maison, qui nous faisait envie. Et puis donc c'est parti de là, il y a eu quelques cours au centre social de Terre Noire de quartier justement. Et puis après il y a eu une pause parce que le foot a pris la place de la musique.
Okay.
Et ensuite ça a été à la guitare où j'ai un cousin qui est venu du Canada, un cousin canadien, qui jouait de la guitare, je trouvais ça trop stylé. Donc comme on avait une petite guitare qui traînait chez nous, je me suis mis à jouer comme ça. Voilà.
Okay.
Donc c'est par imitation on va dire que la musique est revenue.
Et il y avait des cours à ce moment-là que vous preniez ou vous êtes autodidacte à 100%
Raph, il a pris des cours de musique de piano au centre social de Terre Noire et moi j'ai pris des cours de saxophone à Saint-Priest-en-Jarret, qui est une ville à côté de Saint-Étienne.
Et après j'ai pris des cours avec mon oncle, moi, de guitare.
Okay.
On a un oncle qui est musicien qui s'appelle Freddy Kroger, Frédéric. Et lui, il m'a appris la guitare après pendant des années, comme ça, en tête à tête dans ma chambre. Et il m'a fait monter sur scène avec lui.
Donc lui c'était son métier ou
c'est vraiment
okay.
Il a écrit des albums, il a écrit des chansons, il a un studio, c'est son métier. Il est intermittent sur spectacle.
Okay.
On avait un oncle musicien artiste et il a été déterminant pour moi. Ça a été mon maître de musique quoi et puis quelqu'un d'important parce que à un âge où j'étais jeune ado puis ado, c'est super d'avoir un exemple. Et donc mon oncle c'était mon exemple et je voulais faire comme lui, jouer de la guitare comme lui.
Et du coup, c'est rapidement devenu pour toi un objectif vraiment de travail.
Ouais, exactement. Bah, c'est vraiment ça, c'est l'exemple. C'est-à-dire, ça paraissait pas si loin. Comme mon oncle avait réussi à être musicien, je me disais, bah, j'ai possibilité de l'être. Et puis lui, il me disait, tu peux l'être, t'as le talent pour le faire, tu travailles, t'es discipliné, je crois en toi, t'as plein de qualités. Enfin voilà, tous ces discours d'encouragement qui sont super importants quand on a cet âge-là.
Mm.
On a besoin d'entendre. Surtout que moi j'étais pas un as à l'école, j'aimais pas trop ça, enfin j'étais pas nul mais j'aimais pas vraiment ça quoi. Donc très vite j'ai mis toute mon énergie sur autre chose. Donc moi dès le collège je pense, je disais à mes potes que j'allais être musicien.
Okay.
Bah, alors que j'avais finalement 2 ans de guitare, c'était un peu exagéré. Mais pas tant que ça, enfin en tout cas c'est l'histoire qu'on se raconte je pense. Et je me suis raconté cette histoire très vite, que j'allais être artiste plutôt que d'avoir un métier... chiant.
Et Théo, tu te fais porter par cette énergie-là, du coup?
Ouais, bien sûr. C'est une histoire de transmission familiale, que ça soit du grand-père, de l'oncle,
du grand-oncle, Roger,
de l'oncle au neveu, et du grand-frère au frère, et des autres grands-frères. Nous, on a un autre grand-frère qui s'appelle Romain, qui nous a fait faire de la musique aussi.
Et du coup, au niveau scolaire, ça a suivi. Il me semble que tu avais commencé des études de musique, non, Raphaël?
Musicologie, on a fait tous les deux quasiment le même nombre de mois,
ouais.
Un semestre près de musicologie.
On a fait 3 semestres.
Okay.
Trois semestres avec 2 chevilles.
On a fait 3 semestres avec nos 2 IEP.
Non, je dis ça parce qu'à Saint-Etienne, comme on vient de Saint-Etienne, on peut rapprocher des syllabes comme ça. Et quand on dit semestre, on peut dire semestre.
Des semestres.
Des semestres.
Jean-Philippe Smest.
Voilà. Je ne sais pas si c'est très intéressant, mais c'est comme
répondez
ça.
En commentaire si vous avez trouvé ça très intéressant.
Appuyez sur le pouce bleu.
Pouce bleu.
Sur YouTube, c'est les mecs qui sont complètement... Et TikTok est fort. TikTok est fort, la famille.
Partagez ça partout sur Biril.
Biril. Devant, derrière. Ah, c'est le moment de faire un Biril.
Aïe. Yeah.
Et tu feras du montage,
du coup,
tu veux
pas... Oui, oui. C'était pas un succès, du coup, les études
Non, c'était hyper intéressant. Après, très vite, je me suis dit, oh là là, en fait, je pense que c'est pas exactement comme ça que j'avais envisagé. Enfin, en tout cas, le résultat de la musicologie, tu sais, des fois, tu fais des trucs, tu te poses pas 1000 questions, c'est marrant, surtout à ces âges-là. tu dis, oh, je vais faire la musicologie, il y a le mot musique derrière, et tu oublies qu'il y a ologie. Et en fait, très vite, tu te rends compte que la partie ologie du mot, elle est quand même importante.
C'est comme œnologie. T'aimes bien le vin, mais tu sais qu'il y a ologie, en fait. Tu vas beaucoup t'occuper du sulfite, quoi. Et du coup, c'est quand même beaucoup ça, la musique. Bah, tu fais pas de musique, en fait.
On faisait pas de musique, on apprenait l'histoire de la musique, de la théorie, médiévale. Bah, ouais, un peu de théorie, mais même assez peu. On faisait beaucoup c'était beaucoup le travail universitaire autour de la musique. Les musiques anciennes, musiques du Moyen-Âge, analyser des partitions, enfin voilà, un cursus très universitaire, et ça fait des musicologues, donc des gens qui... C'est des métiers assez intéressants, mais où tu recherches autour de la musique, quoi. Ou ethnomusicologue, ou rechercher autour de la sociologie de la musique. Tu pars dans d'autres pays, étudier des... Ça, c'était des beaux métiers, je pense. Étudier, par exemple, une tribu qui va jouer ça, ou justement venir à Montpellier, venir étudier... la sociologie de la musique à Montpellier, bref. Et il y avait plein de métiers de recherche, mais c'était pas la pratique et l'envie de créer, d'être artiste, c'était autre chose, qui est une autre volonté, quoi. Et ça, ensuite, ça a été... j'ai fait aussi une école de musique, en effet, de guitare, qui m'a plus... en tout cas, où j'ai plus fait de la musique, j'ai appris la guitare un peu mieux, j'ai appris le piano un peu mieux, appris à chanter aussi, à écrire des chansons, et puis on faisait ça intensivement, comme 20 après 25 heures par semaine, un truc comme ça. Et là, j'ai bien aimé, j'ai fait des rencontres importantes, j'ai gardé des amis de cette période-là, puis j'ai créé mes premiers groupes, en fait. J'ai commencé à concrétiser des chansons, je me suis mis à écrire en français à ce moment-là aussi. Donc ça a été vraiment un rebond de la famille versus une manière de... Enfin, pas versus, mais augmenter d'une manière de trouver dans l'institution, dans les écoles, une manière de devenir artiste, mais parce qu'il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Mais en vrai, véritablement, ça a juste été, au bout d'un moment, travailler, faire émerger quelque chose, et de rencontre en rencontre, faire en sorte que les choses existent, quoi.
Ouais. Et est-ce que, du coup, c'est grâce à toutes ces rencontres-là aussi que tu ou que vous avez réussi à créer une identité? Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il y a de plus complexe, on va dire, quand tu fais de la musique ou même de l'art en général, c'est de trouver ton identité à toi. Ta façon de chanter, ta façon de faire les clips, de faire des pochettes, de travailler en duo, en fait.
Est-ce que c'est les rencontres qui ont permis la création d'une identité? Qu'est-ce qui permet la création d'une identité? Vas-y, Théo.
Le travail, quand même, il permet d'aller creuser à des endroits. En tout cas, plus tu expérimentes, plus tu cherches, tu vas à droite, à gauche, et tu sais un peu à quoi ça ressemble. Ce que tu veux pas, ce que tu aimes pas, ce que tu as aimé dans cette chose. Et ensuite, je pense que toutes les petites étapes de rencontre avec les gens, de ce que tu sens qui a plu autour des personnes, va te rasséréner à une certaine manière, de faire confiance à ta partie artistique dans une certaine esthétique précise. Du coup, ça te fait pousser à cet endroit-là. Un début de réponse, et que je pense que le travail et la répétition du geste et des trucs quand même permettent d'aller savoir ce que tu veux en te trompant la plupart du temps.
Et du coup, il y a quand même eu un gros chapitre aussi, c'est Raphaël, t'es parti quand même à Paris, donc t'as dû quitter ta ville qui a l'air d'être très chère quand même à vous deux, et t'as fait une émission, et je voulais savoir, est-ce que c'était difficile de gérer la pression, de passer du rien à tout, quoi, et de gérer aussi le fait d'être en live à la télé devant des centaines, des milliers de personnes, millions de spectateurs.
Comment j'ai vécu ça? J'étais heureux de partir de chez moi, justement j'avais envie de partir de cette vie. Puis après, c'était comme un jeu avec une forme d'insouciance aussi qu'on a à cet âge-là. Puis, j'ai eu, et à la fois avec beaucoup d'anxiété et un plaisir de faire un truc terrifiant. Ouais, moi ce qui m'a plus plu, parce que le côté télé, au bout d'un moment, m'a saoulé. Je me suis dit, mais dans quelle galère t'allais te foutre? C'était pas ma passion, ces émissions. Je suis pas un amoureux de télécrochet, j'ai trouvé ça un peu ringard, franchement, sur le papier, en y allant et tout. Et à la fois, il y a quelque chose qui, je sentais bien que ça allait me permettre de vivre quelque chose. J'ai préféré le faire plutôt que de ne pas le faire, mais je me suis quand même posé la question. Et puis, les conditions pour lesquelles je me suis retrouvé là-bas, c'est que moi, je ne suis pas allé m'inscrire, c'était une fille de ma classe en musicologie. Je démarrais ma deuxième année, je me disais, putain, je suis retour à la case départ à Saint-Etienne, je sais plus quoi faire, donc j'ai vu une opportunité, j'ai eu l'intuition que c'était mon chemin, en fait. C'était pas exactement le bon chemin, mais que c'était une manière de détruire la membrane de là où j'étais, où j'arrivais pas à sortir, parce que j'avais aucune connexion, franchement, à part mon nom qui est musicien, mais qui est régional, autour de Saint-Etienne. J'avais aucun contact. Donc je me suis dit, bah, ça va être la manière un peu étrange pour toi de monter à Paris. Okay. Et je l'ai fait. Et je suis retombé très amoureux, en fait, de quelqu'un pendant cette émission. Et donc c'est ça que je garde presque, plus juste l'émission. Enfin, j'ai commencé à une autre vie à ce moment-là. Puis après, j'ai travaillé pour des émissions télé pendant 2 ans. Je travaillais pour la production sur The Voice pendant 2 ans. Parce que le producteur de l'émission que j'ai fait, qui s'appelle X-Factor, était la même que sur The Voice.
Okay.
Donc c'était... Après, c'était 2 ans étranges. Après, ça a été que des années très différentes les unes des autres. J'ai engrangé beaucoup d'expériences, ça m'a rendu aussi... À chaque fois, c'était quand même des métamorphoses très puissantes. Tout d'un coup, j'étais là devant 4 millions de personnes et j'en me reconnaissais dans la rue, je signais des autographes alors que j'avais rien fait de ma life. J'avais juste fait 10 reprises à la con, dont une qui avait bien marché. Enfin, tout d'un coup, les gens arrivent, t'attendent devant l'hôtel. Donc, t'as tout le côté starification que j'ai découvert très vite, que j'ai ressenti dans mon corps. Je me suis dit que j'étais assez à l'aise avec ça, mais pas dans le sens où j'ai adoré ça, dans le sens où j'en avais justement assez rien à foutre. Je me disais, ok, t'aimes vraiment la musique, mais cette partie-là, c'est pas pour ça que tu fais ce métier. J'avais aucune légitimité à être adoré. Je trouve que de toute façon, il n'y a rien qui est légitime quand on t'admire. Enfin, tu peux être amoureux de quelqu'un, admirer quelqu'un, mais il y a une limite à l'admiration. Tu peux être inspiré par quelqu'un, mais je trouve que l'adoration, c'est pas positif. On s'en fout, en fait, ça sert à rien. Et du coup, voilà, j'ai appris plein de trucs, en fait, à 19 ans. Le stress, le travail. Ensuite, j'ai travaillé, je suis devenu responsable. J'avais donc une grosse responsabilité sur cette émission. Donc, pareil, à 22, 23 ans, j'avais des gros postes, je gagnais très bien ma vie. C'était une autre vie, j'avais été une rosta, puis tout d'un coup j'étais reparti dans l'anonymat. Enfin, une rosta, toute proportion gardée, mais en tout cas, à l'échelle de mes 19 ans, c'est trop bizarre. Je suis à Paris, une ville que je connais pas, les gens me connaissent dans la rue. Et l'année d'après, j'étais reparti dans l'anonymat, je faisais plus de musique, je chantais plus, je faisais que m'occuper d'autres chanteurs, je gagnais très bien ma vie. J'étais dans des milieux du show business, pareil, dont j'avais rien à foutre, que j'adulais pas du tout. Je sortais dans des boîtes de nuit branchées à Paris, j'étais un gamin, j'avais des chaussettes dépareillées. Je me sentais comme un plouc. Et pareil, j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré plein de gens, des milieux sociaux très différents du mien. Donc ça a été toujours un peu rude, quoi, et puis à la fois passionnant. Mais tout ça a toujours été dans une forme de, comme ça, de métamorphose. Il fallait agir très rapidement, se modifier très rapidement, essayer de comprendre les trucs. Et après, j'ai arrêté de faire ça. Et je me suis mis à écrire. Là, c'était des années plus longues, plus lentes, mais j'ai vraiment perfectionné mon esthétique, comme tu dis. D'écriture, je me suis mis à écrire, comprendre que j'aimais écrire, composer. J'ai écrit plein de musique, j'ai fait des EP, j'ai défini plein d'esthétiques différentes. Et puis au bout d'un moment, quelque chose qui a combiné, c'est le moment où Théo, ça a commencé à vraiment avoir un gros niveau de production. Et puis voilà, moi, j'avais envie de travailler avec mon frère. Et c'était en 2015-2016.
Justement, je voulais revenir sur l'arrivée de Théo du coup à Paris. À ce moment-là, du coup, vous formez ce duo-là, que vous nommez Terre Noire. Et je voulais savoir si déjà... Vous vous étiez jamais senti limité par le fait d'être un duo, parce que je ne sais pas ce que c'est que travailler en duo. Et en plus de ça, vous nommez Terre Noire, du coup, c'était en référence à votre quartier de jeunesse. Et pareil, est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous cantonner là-dedans? Genre, du coup, j'imagine qu'en interview, on vous demande beaucoup de fois d'où vous venez, etc. Et je voulais savoir si ce n'était pas une crainte de vous enfermer presque là-dedans.
De s'enfermer dans quoi?
Dans le fait de devoir dire que vous êtes de Saint-Étienne et que Terre Noire, c'est là-bas.
Ce sera toujours vrai. C'est pas grave, ça c'est juste des points de départ. Et puis c'est pas mal d'avoir des choses qui tapissent aussi un concept qui soit toujours là. Franchement, c'est notre terre d'enfance, c'est ce qui nous a construit. C'est la manière dont on se positionne face au monde, en fait, plus que la manière qui va conditionner une esthétique musicale ou rien qu'une manière d'écrire. Enfin, on fait de la musique, quoi. Donc finalement, le postulat de départ, Terre Noire, Black Paradiso, C'est des choses ancrées, c'est des racines, mais c'est pas quelque chose qui nous cloisonne en fait dans des esthétiques, donc c'est pas très terrifiant.
Okay. Ouais. Et tu mentionnes Black Paradiso, du coup c'est votre label que vous avez monté après.
Ouais, Black Paradiso, c'était aussi une entité un peu fictive, c'était une direction dans laquelle dans le premier EP on allait, qui était une espèce de direction, ça nous permettait de créer une narration en fait pour le projet.
Et je veux savoir du coup à quel moment vous avez envie de monter ce label avec ce nom-là et quelles étaient les responsabilités, parce que j'imagine que ce n'était pas forcément un domaine que vous connaissiez à 100%.
C'est une très bonne question. Moi, la partie avant, enfin, juste un peu avant de monter Terre Noire, je me mets à écrire des textes pour d'autres gens, pour des artistes. Donc j'écris pour Tal, pour Amel Bent, pour Enchanté Julien, pour Arcadian, plein de groupes de majors, de variétés, de pop. pop urbaine, comédie, un truc comme ça, un truc qui... Et donc j'ai observé, c'était après avoir eu un long moment où je travaillais seul dans ma chambre, je filais des cours et tout, j'ai observé de l'intérieur des équipes de travail en fait, comment on faisait un disque, comment était organisée, structurée l'industrie de la musique. Et donc pareil, j'ai réfléchi, analysé, rencontré des gens, posé des questions aux artistes, comment ils ont fait. J'ai vu ce qui fonctionnait, aussi ce qui dysfonctionnait. Et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas attendre énormément d'un label, que souvent dans l'imaginaire qu'on a, enfin en tout cas moi j'ai toujours entendu autour de la musique, un label c'était l'Eldorado, c'était justement le paradis, tu signes, tu vois. C'est comme tous ces mots, tout fait.
C'est le début de tout, quoi.
Bah ouais, en tout cas c'est déjà, putain, quand t'es artiste, t'as signé, tu vois, ou t'as percé, tu vois. Mais en fait, c'est juste des idées, c'est-à-dire, tu peux signer, il y a des artistes qu'on connaît, ils ont signé, ils ont jamais sorti un scud, on leur a rendu leur contrat et... Ils ont vécu un effet
de... Un calvaire inhibiteur.
Et on voulait être en responsabilité de notre métier. Donc on a structuré une entreprise, une société par action simplifiée, Black Paradiso, c'est le concret, nous qui sommes...
Mais du coup, vous êtes vraiment impliqué dedans? Vous avez quoi comme rôle exactement, en fait?
Je suis président de la boîte et Théo, il est directeur.
Ok.
On partage tout. Et en tout cas, on n'est que deux dans cette entreprise.
Ok.
Et on est donc, c'est une société de production phonographique, donc on peut produire des disques. Nous sommes aussi éditeurs phonographiques, nous pouvons éditer de la musique, nous pouvons éditer des livres aussi et produire des spectacles. C'est ça les statuts de notre entreprise, on peut faire toutes ces activités-là. Moi, ça me passionne, voilà. J'aime faire de la musique, j'aime créer des morceaux, j'aime imaginer des idées, des histoires, mais j'aime aussi créer des systèmes qui fonctionnent.
Et pour booster les nouveaux artistes, en plus, au passage, quoi.
Ouais, on peut accompagner de nouveaux artistes. C'est une énergie musicale aussi, d'une certaine manière. Et puis voilà, donc Black Paradiso, c'est ça, c'est notre label. On a produit trois disques, enfin, un premier EP en 2018, un autre en 2020 et notre édition en 2022. On produit... On est éditeur aussi d'un groupe qui s'appelle La Belle Vie. On est éditeur, co-éditeur de nos chansons à partir de maintenant. Voilà, donc on a commencé à avoir un petit catalogue de chansons. Toutes les chansons avec Théo qu'on a écrit avec d'autres, on est aussi éditeur, donc on doit avoir 40 ou 50 chansons. Donc un peu moins, peut-être une trentaine de chansons dont Black Paradiso est éditeur. Donc voilà, c'est un petit catalogue d'une entreprise qui a 4-5 ans maintenant. L'édition, c'est ce qui fait vivre les droits d'auteur. Enfin, en tout cas, c'est la rémunération des droits d'auteur et de composition. Une chanson génère ses droits d'auteur quand elle vit. Et Black Paradiso gagne sa vie aussi là-dessus, comme des petites graines, des chansons qu'on crée. On a acheté notre studio aussi. Black Paradiso a acheté le matériel. Donc voilà, on a acheté notre atelier aussi.
Trop cool. Et justement, en parlant de musique, au moment où on parle, hier, vous sortez votre album, enfin votre premier EP en format vinyle. Et je voulais savoir un petit peu le regard que vous avez sur vos anciennes chansons. Moi, je sais que je suis très perfectionniste et j'ai parfois un peu de mal à regarder le travail que j'ai fait avant. Et vous, qui devez le jouer sur scène, etc., comment vous arrivez à ne pas être trop critique sur vos anciens sons, sur ce que vous faites, en fait?
En spectacle, c'est de la représentation, donc c'est différent. Tu peux toujours remodeler et refaire vivre des choses qui sont finalement nouvelles, puisqu'elles sont à chaque fois réinterprétées. Moi, je réécoute pas ce qu'on fait comme ça là dans la vie de tous les jours. Mais je sais pas, c'est des choses qu'on a pondues. On est content. Merci de nous avoir fait vivre. Enfin, ces choses-là nous ont fait vivre, nous ont fait grandir. Tu vois, faut leur rendre hommage, même si c'est bizarre et c'est vieilli. Et c'est pas grave, ça nous a permis d'avancer. Merci à ces chansons.
Elles sont super, mais je les aime toujours autant.
Tu vois.
Non, il faut
accepter, ça fait partie des trucs de l'arrière et c'est génial, elles nous ont aidés, quoi. Elles sont là, on les aime, c'est des camarades,
okay.
c'est des vieux amis.
Il faut s'attacher pour les bonnes raisons à son travail et il faut se détacher de son travail pour les mêmes raisons, c'est-à-dire, comment dire, de toute façon c'est pas très grave, c'est que des chansons, faut pas déconner, une vie sur Terre est courte, les chansons c'est des battements d'air, il y a des gens qui kiffent. Ça, la vérité. Ça nous fait vivre, ça nous passionne, ça nous permet de rencontrer des gens. Il faut aussi dépassionner un peu, désacraliser tout ça. Enfin, c'est important, l'exigence de la beauté, c'est pas rien, quoi, l'art. Enfin, faut pas déconner, mais il faut aussi faut être mesuré sur. Faut faire les choses avec sérieux, avec cœur, mais pas non plus se prendre trop sérieusement. Enfin, pas trop se prendre au sérieux. Mais en tout cas, écrire des... plus que d'écrire des chansons, ce qui est plaisant, c'est de d'avoir la sensation d'écrire une histoire. Et je reviens avec cette idée de pourquoi on s'appelle Terre Noire. Je réfléchissais en t'entendant poser cette question, et je me disais, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes qui portent fort leur territoire natal comme nom de groupe? Un 995? Non, c'est juste leur année de naissance, peut-être.
Peut-être 47 Terres, je sais pas. C'est par rapport à...
47 Terres,
ouais. C'est la rue de leur truc, là.
Ouais, il y a 47 Terres, c'est vrai.
Indochine.
Ils sont nés en Indochine, tous. Oui, c'est vrai, c'est ça. C'est tous des Indochinois. Non, mais je me posais la question, parce que c'est vraiment très, très concret, quand même, non, ce nom de quartier. Mais c'est parce qu'il a parce qu'il a l'air de pas être un... Ça a l'air d'être autre chose que ce que c'est. On l'a choisi aussi.
Peut-être une dernière question. On a parlé du passé, du présent, mais au futur, est-ce que vous aurez un featuring de rêve? Je suis curieuse.
Moi, je sais pas si c'est une idée de featuring. Moi, j'aimerais bien travailler avec des artistes. J'aimerais bien qu'on travaille avec Dafer Youssef, qui est un Tunisien qui joue de l'oud et qui est un chanteur que j'adore.
Okay.
J'aimerais bien travailler avec un producteur américain qui s'appelle One Tricks Point Never. En France, j'aurais bien aimé rencontrer Dick Angard dans les années 70. Maintenant, il est plus vieux, j'aime un peu moins ce qu'il fait, mais. Et voilà, déjà, ça serait bien.
En ce moment, j'ai plutôt envie de travailler avec des artistes de ma ville, de Saint-Etienne, pour raconter une histoire sur ma ville. C'est ça qui m'intéresse le plus. C'est plutôt le sens des choses plutôt que plutôt que le rêve d'un artiste que j'admire. Il y a plein de gens que j'admire, mais principalement. Ce sont des gens morts, comme, je sais pas, Maurice Ravel. Et puis non, mais en ce moment, j'écoute Vanessa Amara, c'est un trio danois, ils sont super. J'adore la musique, je les trouve fascinants, mais j'ai pas spécialement envie de collaborer avec eux, tu vois. J'ai envie de travailler avec des gens, je sais pas comment, que je connais, que j'aime. J'ai envie de collaborer avec les gens que j'aime, que je connais. C'est plus ça qu'on va attendre des artistes. On va attendre des artistes qui recréent du lien pour les gens, pour qu'ils revivent ensemble. Et donc ça sera quelle typologie de geste on va faire. Mais ça va être une entreprise très, très intéressante. Notre envie, enfin moi mon avis en ce moment, c'est de réatterrir sur mon territoire, de refaire des choses pour les gens en fait.
Ok, bah merci beaucoup à vous.
Merci,
c'est
merci
super
à
toi. Intéressant.
C'était Margot en compagnie de Terre Noire pour l'émission Ça part de là sur Radio Campus Montpellier. Merci à Marceau Maurice pour les designs de l'émission et à vous pour votre écoute. À très bientôt pour découvrir un nouveau parcours.